Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la troisième partie du podcast sur le cinéma et la maturation du jeu de rôle. Et une fois de plus, Nando, je te laisse mener la danse.
Et oui, on était au moment où les Américains commençaient et avaient compris que pour faire un pas important pour la légitimation du cinéma en tant qu'art, c'était nécessaire lui doter le cinéma d'un langage à lui spécifique, d'une grammaire propre au cinéma, bien sûr et bien évidemment avec des influences qui venaient des autres arts, des autres formes, du théâtre, de la peinture, etc., etc. Mais il lui fallait une grammaire à lui propre, spécifique. C'est un peu ça vraiment le grand pas, la grande révolution qui a eu lieu aux États-Unis entre 1914, 15, 16. Et que en Europe et en France explose comme une vraie révolution. Et c'est à ce moment-là que, en particulier, des théoriciens comme Ricciotto Canuto, qui est un théoricien italien, mais qui était installé en France, inventent la définition de cinéma comme septième art. Donc, le cinéma, c'est un autre art, pas un art comme le théâtre, c'est pas assimilable au théâtre, mais c'est un septième art. C'est-à-dire quelque chose de nouveau, de différent, mais en plus qui va au-delà de tous les autres arts qui viennent avant. Et c'est à ce moment-là aussi qu'il s'y constitue, en France en particulier, toute une génération de cinéphiles, on peut le dire, d'un groupe de gens qui aiment le cinéma, aiment ce cinéma qui vient des États-Unis avec ses nouveautés linguistiques, parce qu'à ce moment-là, le cinéma américain, pas veut dire cinéma américain comme aujourd'hui, mais veut dire la nouveauté d'un art qui s'exprime avec son propre langage. Et cette génération, qui est une génération de critiques et de théoriciens, mais aussi de cinéastes, comme Louis Deluc, Émile Villermoz, Germain Dulac, Léon Moussinac, Abel Gance, Jean Epstein, et donc Marcel Herbier, sont à la fois des critiques qui écrivent, fondent des nouvelles, des revues sur lesquelles ils écrivent, parlent entre eux, fondent des lieux pour parler du cinéma comme du cinéma qui aime et appelle ces lieux les ciné-clubs. Donc, ils inventent aussi toute une nouvelle terminologie, notamment ciné-club est un mot qui naît à ce moment-là. Un autre mot qui naît à ce moment-là est cinéphile, comme je vous disais. C'est pour ça qu'il faut vraiment pouvoir l'utiliser ce mot, parce que c'est à ce moment-là que Louis Deluc invente ce mot pour définir cette nouvelle figure des hommes et des gens qui aiment ce cinéma, c'est-à-dire le vrai cinéma, le cinéma comme un art qui peut s'exprimer avec ses propres moyens. Ou un autre mot qui naît à ce moment-là est photogénie, par exemple, photogénique. Le concept d'être photogénique, c'est-à-dire apparaître bien à l'écran et paraître particulièrement capable d'être capté par l'appareil de prise de vue. Donc, il y a toute cette génération des années 20 qui, à la fois, qui est une génération qui se met un peu de travers à l'industrie cinématographique française, théâtrale, comme j'ai essayé de le définir avant, et se noie dans la nouveauté du langage cinématographique et porte ce langage pour ses propres passions dans ses cercles privés, on pourrait dire, de ciné-club. Porte la réflexion sur ce langage vers l'avant-garde, on pourrait dire. Et donc, il s'essaye d'exprimer avec tout ce que la nouveauté du langage cinématographique peut avoir, peut donner, et peut essayer de réfléchir sur ça, mais aussi faire des exemples concrets. Donc, il y a cette génération. C'est peut-être ça plutôt comparable vraiment à un groupe de gens, des rôlistes, parce que c'est vraiment plutôt considérable comme un groupe d'amis qui se retrouvent ensemble et parlent du cinéma, voient le cinéma qu'ils aiment et portent avant avec cette démarche leur propre idée, qui est une idée innovatrice, et c'est cette idée qui finalement fait vraiment le progrès et la maturité, la légitimité du cinéma au fur et à mesure.
Alors, je pense pas que... Je ne sais pas ce que tu en penses, Eugénie, mais je ne pense pas qu'on puisse trouver des groupes qui représentent vraiment, qui seraient l'équivalent des cinéphiles, quoi, en jeu de rôle.
C'est difficile. Ouais, je me pose vraiment la question de si on a atteint cette phase, en fait. Si peut-être aussi parce que il y a eu ça, je pense. La rupture avec le mainstream, le courant mainstream du jeu de rôle. Il y en a eu à plusieurs moments, mais il y a eu notamment La Forge. Le fait d'affirmer le jeu de rôle comme un art et de lui trouver des auteurs et d'en faire quelque chose qui soit autre chose qu'un divertissement, d'en faire quelque chose de beaucoup plus sélectif que... Alors, c'est compliqué pour nous parce que pour nous, la base du média, c'est un cercle de culture geek qui est une culture populaire. Mine de rien, si on regarde Hollywood quand même, on peut se dire que la culture geek est devenue une culture populaire. Mais dans le milieu du jeu de rôle, c'est... se revendiquer populaire, ça permet aussi de dire on va sortir des sujets geeks pour l'apporter à un autre public qui sera le public de masse, qui sera un public familial, qui sera un public féminin, qui sera un autre public, d'apporter à d'autres, un autre populaire, quoi. Du coup, c'est très compliqué parce que y a eu cette volonté de sortir du divertissement et des thèmes geeks en se revendiquant de se tourner vers un public plus ouvert. Et en réalité, c'était aussi se lancer dans des thèmes plus sérieux, plus intimistes, peut-être plus adultes, au sens la romance, la sexualité, les émotions, les sentiments, les relations, qui sont le deuil aussi, des choses plus peut-être films français dans l'imaginaire, ce genre de choses. De digression en digression, j'ai perdu mon propos, mais qui sont en fait des thèmes institutionnels, reconnus par l'art institutionnel, et c'était quelque part aussi en faire un loisir sérieux. Donc c'est assez difficile de le penser en termes d'avant-garde parce que il n'y avait pas le côté nous sommes des vrais passionnés qui aimons le seul vrai jeu de rôle qui mérite qu'on le regarde comme un art. Mais il y avait un côté on veut ouvrir le jeu de rôle à tout ce que peut faire l'art. On veut ouvrir le jeu de rôle à tout un tas de thèmes qui sont proches et qui sont la vie, en fait, à toute une palette d'émotions qui sont autre chose que l'aventure, etc. Et pourtant, en le faisant, il y a quand même eu cet effet reconnaissance de sérieux et peut-être un peu de cinéphile, d'avant-garde et de ce qui peut paraître un peu un télo dans sa tour d'ivoire, quoi.
Là, j'aurais fait un lien entre l'épisode dont on vient de parler sur le cinéma et en jeu de rôle plutôt les années 90, on a parlé un petit peu là de l'émergence du cinéma dans sa forme normale au sens de la norme, c'est-à-dire avec la salle de cinéma, avec un public large, des films qui sont faits pour être plutôt, qui sont plus intéressés par leur dimension narrative, artistique ou non. Et là où les années 90 du jeu de rôle sont celles où apparaissent, se diversifie beaucoup le média en termes de, peut-être pas en termes de forme de jeu, mais le dispositif est vraiment très, très en place avec, on a un peu abandonné le player skill des vieux Donjons et Dragons, et il y a cette focalisation sur l'histoire, sur les compétences, etc. Avec notamment Vampire la Mascarade, en 91, qui remplace le meneur de jeu par le compteur, c'est à peu près pareil, mais il y a beaucoup plus cette idée de jouer une histoire intéressante. J'avais dit que Call of Cthulhu s'était déjà fait remarquer pour être un des premiers à demander vraiment à ce que les parties soient narrativement intéressantes, mais Vampire la Mascarade pousse un peu ça plus loin. Et puis les années 90, du coup, c'est plein de jeux de rôle qui deviendront hyper, hyper célèbres. Hein. Les grands jeux de rôle tradis, il y en a plein qui sont de cette époque-là. Il y a Vampire en 91, il y a Néphilim en 92 pour les francophones. Il y avait Ars Magica, c'était genre en 87, je crois. Et vers la fin des années 90, il y a aussi des jeux de John Wick, pas que John Wick, Légende des 5 anneaux, etc. Mais à ce stade-là, il n'y a pas encore tant que ça. Je ne sais pas si le jeu de rôle se pense déjà comme un art, je ne sais pas quels sont les discours des auteurs de cette époque-là sur eux-mêmes, mais j'ai l'impression que les auteurs ne sont pas toujours très mis en avant. Tu vois. Sur les choses comme... Par exemple, bah, sur des choses comme Légende des 5 anneaux ou Septième Mer, je savais, je connais le nom de John Wick, quoi, qui est un personnage assez connu. Pareil pour NSMV, je sais le rallier à Croc. Mais il y a pas mal de jeux hyper célèbres de l'époque pour lesquels je suis allé chercher les noms tout à l'heure pour checker. Ils me disent rien du tout, en fait. Les noms des auteurs de Néphilim, de D3, par exemple, quand je les ai lus, je les avais jamais vus avant. Et je pense pas qu'ils aient été très, très mis en avant. Et je crois qu'il y a ce moment-là de... En fait, les années 90 sont un moment où la forme rôliste commence à s'être suffisamment posée pour permettre d'explorer pas mal d'autres settings en prenant cette forme-là et en voyant pas mal d'autres choses de ce qu'elle peut faire, quoi. Sans avoir toutefois réussi à dépasser l'ancêtre dans une certaine mesure. C'est-à-dire que on peut toujours se plaindre dans les années 90, tu vois, que Cthulhu, il y a des listes de descriptions d'armes avec des dégâts différents, subtilement calculés et tout, ce qui relève beaucoup plus de la simulation militaire que du jeu d'horreur, enfin d'enquête horrifique. Et puis j'ai vu des critiques aussi sur Vampire qui disent finalement que l'organisation des vampires dans cet univers-là en termes de clan, quel clan te donne quel pouvoir, est une espèce de réinvention un petit peu des classes, de D&D dans un sens très différent, mais qui donne souvent lieu à des choses assez clunky, quoi. C'est-à-dire que comme ce sont plus juste des capacités, mais aussi des clans d'un point de vue narratif, on se retrouve avec des groupes de personnages hétéroclites qui n'ont pas grand-chose à faire ensemble ou qui sont censés se détester pour des raisons de clan, en fait. Mais mine de rien, il y a quand même je pense que c'est vraiment l'époque où il y a la fondation d'un grand socle commun de techniques, mais surtout d'univers, de grands jeux de rôle tradis. Enfin, ouais, la formation du tradit, ce qu'on appelle maintenant le jeu de rôle traditionnel, qui me semble se fonder surtout, se cristalliser à ce moment-là, quoi.
Ah oui, alors là, pour le coup, on est dans mon angle mort total d'une culture que j'ai pas connue.
Ouais, moi, par des on-dit plus qu'autre chose. Hein.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que aujourd'hui, on a toujours un média qui globalement se refuse à se considérer comme un art, qui est le discours dominant, c'est quand même on est là pour s'amuser, plus que on est là pour créer, en fait, pour faire de l'art. Et surtout, je pense qu'on est encore caractérisé comme un milieu où il manque une critique développée, dans le sens, une critique qui produit un discours sur le média. On a beaucoup de critiques de l'ordre de la critique conso, pour savoir si tel jeu est bien ou pas, si tel actual play il est à voir ou pas. Mais on n'a pas tant que ça, ce qu'il y a pu y avoir pour le cinéma, des revues de critiques qui posent un angle fort, des manifestes artistiques, quoi, ce genre de choses. Je trouve que on en a peu, finalement, et ça n'aide peut-être pas à avancer le média, quoi.
J'avais en tête aussi, pour reboucler sur l'histoire, sur l'idée des cinéphiles, la constitution de groupes de cinéphiles, je me demandais pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de choses comme ça en jeu de rôle, et je réalisais qu'il y avait deux différences majeures qui l'empêchaient, à mon avis. La première, c'est que le jeu de rôle est déjà un média social de base. On a dit qu'il est personnel, au sens où il n'y a pas des grandes salles où on est des centaines à pratiquer le jeu de rôle, mais que c'est plutôt un truc qui se fait chez soi, ou en tout cas en petit comité, quoi, une petite table. Tandis que donc on est déjà dans des groupes, en fait, mais des petits groupes. Tandis que le cinéma, j'ai le sentiment que, du moins, si tu n'instaures pas le ciné-club, si la forme normale, ça devient la salle de cinéma, alors il n'y a pas de sociabilisation basée sur le cinéma. C'est-à-dire que tu vas dans la salle avec des inconnus et tu ressors et vous êtes tout autant inconnus, vous n'avez pas interagi. Donc si on veut des groupes qui vont plus discuter du cinéma, il faut les forger de toutes pièces, quoi, et créer ces fameux groupes de cinéphiles. Je peux imaginer, tu me diras si je me plante complètement, mais je peux imaginer qu'ils émergent de l'envie de certaines personnes de parler de cinéma et de se retrouver pour discuter, échanger autour de ça. Tandis que donc en jeu de rôle, ces groupes existent déjà, mais en même temps, ils pratiquent déjà l'activité de jeu de rôle et ils sont dans des comités réduits qui ne poussent pas forcément à aller chercher autre part pour avoir des discours sur le jeu de rôle. On en a déjà près de soi, quoi, d'une part. Et l'autre part, c'est que le jeu de rôle a plus de mal, je pense, que beaucoup d'autres arts à former des classiques. Certes, on peut en trouver des classiques, typiquement les jeux que j'ai cités, Donjons et Dragons, Cthulhu, etc. Mais comme il n'y a pas une histoire précise que tout le monde a vue, une narration spécifique que tout le monde a en vue et qu'on peut interpréter à l'infini, mais que chaque personne a sa propre partie, bah, il n'y a pas une histoire précise dont tout le monde va pouvoir parler, sauf quelques cas spécifiques, comme par exemple des campagnes du commerce que tout le monde a joué, par exemple la campagne impériale pour Warhammer, qui est extrêmement connue, ou les masques de Nyarlathotep sur Cthulhu. Mais il y a très très peu la possibilité d'échanger autour d'un contenu narratif précis qu'on a déjà vu. Et en fait, il y a même de la difficulté à parler de jeux de rôle tout court avec d'autres gens qui n'ont pas forcément la même pratique que soi, parce que on se rend compte que la pratique rôliste semble, dans les années 90, être assez diversifiée. Il y a pas mal de choses différentes qui se font, de façons de jouer différentes. Et comme la discussion est peu présente entre les groupes rôlistes, je pense qu'on ne s'en rend pas beaucoup de compte, en fait. Une trace de ça, c'est les Flame Wars à l'infini autour de Vampire la Mascarade, qui est un jeu qui permet de jouer très largement, en fait, que l'on joue le drame d'être devenu un vampire et de devoir jouer sa nouvelle vie à mi-chemin entre avant et maintenant, que l'on joue des jeux de pouvoir et des luttes politiques avec les vampires plus puissants, qu'on y voit une espèce de jeu de super-héroïsme où je joue un vampire très fort qui fait des tas de choses et tout. Il y a plein de modes de jeu très distincts sur Vampire qui ont amené à des traditions distinctes et potentiellement des gens qui ne s'entendaient plus. Et je pense à un autre truc, c'est le canal Usernet RGFA, un canal de discussion, donc c'était avant les forums, hein, mais qui, dans les années 90, a été l'arène publique sur laquelle s'est joué la question de savoir... C'est peut-être ça l'équivalent des groupes de cinéphiles, quoi. C'est les forums tels qu'ils apparaissent, surtout dans les années 2000. Mais dans les années 90, il y a ce canal RGFA qui est connu parce que, c'est globalement une flame war de 10 ans pour savoir quel est le meilleur jeu de rôle, et qui, très, très grossièrement, hein, et à la fin de 10 ans, la conclusion, c'est mais en fait, les gens ont des attentes différentes pour les jeux de rôle. Et notamment, ils ont des attentes qui peuvent être de nature soit ludiste, soit simulationniste, soit dramatiste. Et ce triptyque qui deviendra ensuite la GNS, en remplaçant le dramatisme par un narrativisme, qui forme le socle de la théorie forgienne, en fait. La forge est l'héritière de RGFA. Et je pense que c'est peut-être un bon exemple d'un endroit, en tout cas, c'est un lieu pas physique, hein, ça s'est passé sur Internet, mais d'une confrontation entre des rôlistes sur les techniques, sur les univers et sur qu'est-ce que c'est que faire du jeu de rôle, quoi.
Après, oui, effectivement, après un instant de réflexion, les clubs cinéphiles, quelque part, aujourd'hui, c'est tous ces serveurs Discord, ces groupes Facebook ou ces réseaux rôlistes qui sont quand même assez étanches, où quand t'es dans la sphère indé, tu croises un peu toujours les mêmes personnes. Il y a des écoles, quoi. Il y a des et avec chacune leur vision du jeu de rôle, qui sait à peu près que les autres existent, mais quand même, c'est la leur la plus intéressante, la plus passionnante et la plus intense. Et c'est à chaque fois une vision, des groupes qui disent, nous on a trouvé la vraie façon, enfin ils le disent pas forcément, mais la vraie façon d'aller au bout des potentialités du jeu de rôle, quoi, d'avoir un jeu de rôle qui exprime pleinement ses potentialités, que ce soit avec des simulationnistes qui sont très branchés simulation mathématique d'un univers et qui vont dire oui, enfin bon, quand tu fais juste du roleplay en discutant, c'est t'as qu'à faire du théâtre, tu fais pas du jeu de rôle, t'as qu'à faire du théâtre. Quand je sais pas, il y a des personnes qui peuvent leur répondre, bah oui, mais enfin quand vous calculez vos trucs, allez faire du jeu de société. Nous, on fait du vrai jeu de rôle parce qu'il y a des vraies histoires et des émotions intenses. Et du coup, chacun a son club cinéphile, en fait. On en est peut-être encore à ce moment-là. Et en termes d'avant-garde, je pense que quand même peut-être dans le monde anglophone, la forge, mais que moi j'ai pas connu, donc moi je ramène à la sphère francophone, donc les ateliers imaginaires et la cellule ont eu un peu ce côté de vouloir traduire et importer des nouveaux mots pour pouvoir parler de l'actualité, de l'activité, de pouvoir produire un discours dessus, de vouloir pousser le jeu de rôle au bout de son d'un potentiel de game design, de dispositif, de faire exploser les codes et de pour le coup de vouloir en faire un art, quoi. Mmh. Il y avait quelque chose d'assumé. Alors l'art à ce moment-là, c'était pas les parties, c'était les jeux, les dispositifs, le game design et voilà, et d'avoir en plus un propos politique à travers. Donc il y avait vraiment quelque chose de quelque part de militant que je rapproche vachement des avant-gardes dans mon imaginaire.
Oui, je trouve aussi très intéressant cette comparaison du monde ciné-club, cinéphile, à forum, Discord, comme vous l'avez évoqué, et voir comment ce monde, comme c'est le cas pour le cinéma, et ce que je comprends aussi pour le monde rôliste, ces groupes-là, ce mouvement cinéphile de groupes privés, d'amis qui se retrouvent, parlent du cinéma et en même temps a contribué à la légitimation et la maturation de l'art cinématographique en termes de réflexion critique, donc avec aussi les nouveaux mots, etc. Et aussi en termes de création proprement dite, c'est-à-dire que c'est celle qu'on appelle après l'avant-garde pour le cas du cinéma, c'est-à-dire qu'après on crée, on va vers le cinéma qui on veut voir aussi. Donc, c'est cette réflexion critique et cet engagement, disons, cet militantisme pratique contribue, qui c'est le moment et le mouvement cinéphile français européen des années 20, contribue de façon énorme à cette maturation, à cette légitimation. Et c'est très intéressant pour moi qu'effectivement, c'est un peu la même chose qu'on fait aujourd'hui ici, c'est-à-dire le Discord, un groupe, il y a un groupe petit qui réfléchit sur certains aspects. Et voilà, c'est cet élément-là est un élément qui on doit vu en filigrane comme quelque chose qui a contribué, est en train de contribuer à la maturation du monde rôliste, en fait, c'est trop intéressant, et en comparaison avec le monde cinématographique, qui par contre, dans les années 20, grâce aussi, j'ajoute donc un pas peut-être pour avancer la conversation, mais après on peut revenir sur les choses, mais j'ajoute un élément, c'est que dans les années 20, le monde du cinéma, aussi grâce à ce mouvement cinéphile, trouve bien sa place dans les institutions, devient institutionnel. Notamment, il est accueilli par le monde muséal. Et pour une première fois, dans les années 20, en 1922, je pense, si je ne me trompe pas, mais l'exposition universelle des arts décoratifs dédie des pavillons au cinéma. Et c'est quelque chose d'inédit, mais donc ça dit déjà le niveau de légitimité et de maturité qui était désormais reconnu à l'art cinématographique. Donc les années 20, c'est vraiment le moment peut-être où le cinéma rejoint son sommet de légitimation. Cette muséalisation, donc cette entrée dans les musées est déjà un élément évident, mais aussi l'institution d'un prix, des prix que la corporation du cinéma se crée pour lui, qui est le plus connu, et notamment les prix Oscar aux États-Unis, ben ça veut dire aussi qu'il s'est arrivé un moment que les premières années, la première fois qu'il y a eu les Oscars, c'est en 1929. Et donc, ça veut dire qu'en 1929, le cinéma se sent au point tel de pouvoir se donner des prix, donc à son sommet de légitimité et de sa maturité. Après, l'histoire de la muséalisation, c'est un peu plus complexe. Mais à part passionnante parce que en particulier pour la France, le vrai parcours de muséalisation officielle sera repris dans les années 30 et en particulier avec Henri Langlois et Georges Franjou qui sont deux amis, sont à peine 20 ans, aiment le cinéma et surtout le cinéma muet qui n'existe plus parce que à partir de 1930 on est passé au parlant et donc ils veulent sauvegarder ce cinéma et surtout le remontrer et ils commencent à rassembler les films, les archiver, les conserver et les remontrer. Et c'est ce noyau qui commence en 1936 qui sera la Cinémathèque française. Donc il y a ce mouvement qui, à partir des années 30, devient vraiment un moment de patrimonialisation du cinéma qui, dans les années 30, les années 40, deviendra définitif avec la vraie ouverture après du lieu qui est la Cinémathèque française, qui aujourd'hui est à Bercy, mais avant avait été abritée dans plusieurs lieux de la capitale de Paris. Mais voilà, ce moment de muséalisation qui commence aux années 20, mais trouve vraiment une expression dans les années 30 et après 40, et dit beaucoup du moment de légitimation en fait de l'art cinématographique.
Et ouais, du coup, ça m'évoque, bah, je vais encore insister hein, sur le fait qu'on est un média encore jeune, mais le premier colloque universitaire en France sur le jeu de rôle, c'était à l'occasion des 40 ans du jeu de rôle, donc c'était en 2014 ou 2015. Donc c'est il y a vraiment pas longtemps du tout. On commence tout juste à avoir des publications sur l'histoire du jeu de rôle. Je serais bien en peine de les citer. Malheureusement, je sais que chez Sico Éditions, il y a une collection qui sera dédiée à l'histoire du jeu de rôle. Mais j'en connais très très peu, en fait. Et donc, on s'appuie sur une histoire orale, surtout. Souvent mythique, parce que voilà, on nous raconte des choses, mais qui sont liées aussi à la jeunesse des intervenants, parce que pour l'instant, on est voilà les personnes qui ont commencé le jeu de rôle adolescent, pour certains continuent à jouer aujourd'hui et ont évolué avec le média, quoi. Donc il y a peut-être aussi un mélange entre la jeunesse des personnes qui ont participé et la jeunesse du média qui crée peut-être une confusion sur certaines choses, certains souvenirs. Et surtout, on est un média qui est pas reconnu par les institutions culturelles. Je pense au Centre National du Livre, qui met explicitement dans ses bourses de subventions pour les auteurs qu'il faut être auteur déjà édité par un éditeur en littérature et que le jeu de rôle, ça fait partie de la liste des choses qui sont exclues. Il y a le fait que ben, le jeu de rôle n'est pas dans les musées aujourd'hui, que ça commence tout juste à rentrer et à être valorisé dans les bibliothèques. On ne citera jamais assez la bibliothèque Louise Michel à Paris et la bibliothèque municipale de Villeurbanne qui font des choses splendides à destination du enfin pas à destination du jeu de rôle, mais en tout cas comme valorisation du jeu de rôle. Donc voilà, les institutions chargées de la conservation et de la valorisation du patrimoine commencent tout juste à s'en emparer. Je ne sais pas quelle histoire il avait dans les ludothèques, mais malheureusement, les ludothèques sont très malmenées par on va dire l'état actuel des choses et sont en perte de vitesse depuis des années. Et il y a aussi les institutions qui sont chargées de l'étudier à l'université où le jeu de rôle n'est pas encore tellement un sujet, quoi. Ça commence tout juste à l'être, il y a un petit peu d'articles, mais comme le disait KF, c'est rien par rapport à l'importance des Game Studies, par exemple, qui étudient le jeu vidéo et qui commencent à déjà avoir un arsenal de réflexion, de noms, de références, quoi.
Ah, c'est vrai que du côté des ouvrages sur le jeu de rôle, il y a quelques ouvrages pour raconter son histoire. Celui que j'ai en tête, c'est notamment une série de volumes de Shannon Appelklein, c'est ça, qui s'appelle Designers and Dragons, et qui est en gros une histoire en plusieurs volumes de l'industrie du jeu de rôle, qui est assez détaillée. Je ne sais pas quelle est la. Je ne saurais pas exactement dire quelle est la pertinence de ces sources. Je ne suis pas sûr que ce soit un travail universitaire, mais peut-être que si. Je crois que Shannon est un historien. Mais en tout cas, bon, y a quelque chose d'assez détaillé et qui est plutôt raconté, maintenant que j'y repense, ça me fait penser à ce qu'on racontait sur tout le début du cinéma, comme une histoire d'un modèle économique réussi par Gygax et comme l'histoire de la montée puis du foirage de TSR et tout. Et pour le reste des instances de légitimation, bah, c'est vrai que le jeu de rôle dans un musée, ça paraît incongru là maintenant. Le jeu vidéo est un petit peu en train de faire ce pas-là. Depuis quelques temps, il y a des musées liés au jeu vidéo. Après, je sais pas dans quelle mesure ce critère de légitimation-là, lui, va continuer à vivre. C'est-à-dire que le jeu vidéo est typiquement un média qui, par son support numérique, peut se passer du musée pour survivre, contrairement à la peinture, par exemple. Mais peut-être que ça va. Enfin, a priori, actuellement, le jeu vidéo va vers la muséalisation. Mais est-ce que la muséalisation va continuer d'être un critère de légitimation des nouveaux médias ? Ça, j'en suis pas si sûr. Et puis, pour le reste, bah, les milieux universitaires, on s'intéresse assez peu aux jeux de rôle, un petit peu plus au GN, enfin, le jeu de rôle grandeur nature, hein, si on incarne physiquement son personnage, notamment les GN nordiques. Il y a un petit peu de travaux de psychologie sociale, de sociologie aussi, un peu, je crois, sur le sujet. Mais ça reste assez marginal et c'est minuscule, effectivement, par rapport au Game Studies. Quant aux études, enfin, quant au poste académique, bah, c'est à peu près absent, quoi. Oui, dans les autres livres vachement cités dans la francophonie aussi, il y a le livre d'Olivier Caïra, Les Forges de la fiction, qui était une première étude sociologique du jeu de rôle, mais qui est juste pas un procès, un portrait brossé, qui d'ailleurs prend un point de vue qui est un peu dépassé quoi, dans sa vision des choses. Le jeu de rôle est fondamentalement asymétrique parce qu'il y a forcément un MJ, ce qui n'est plus trop pensé actuellement. Et bah, il n'y a aucun, à ma connaissance, aucun ou aucune maître, maîtresse de conférence en jeu de rôle ou avec un bagage scientifique lié à ça, quoi. Et il n'y a pas d'enseignement du jeu de rôle comme on pourrait enseigner au moins un bout d'histoire du cinéma dans les classes, au lycée ou autre. On en est encore très très loin, quoi. Enfin, je sais pas si ce stade-là arrivera un jour ou l'autre. On n'est pas obligé de vouloir réaliser ce rêve mainstream du jeu de rôle, mais en tout cas, le fait est de constater que c'est pas là, quoi, pour le moment.
Après,
vas-y, je t'en prie.
Non, non. Pour nuancer un peu cette espèce de là, légende dorée sur la patrimonialisation du cinéma qui est dressée, et aussi pour vous rassurer un peu, deux précisions. Déjà, aussi pour la question du cinéma, même s'il y a eu des gens, des académiciens qui sont intéressés très tôt au cinéma, par exemple Bergson a écrit du cinéma en 1905, mais il y a nombre de cas. En même temps, l'enseignement académique de l'histoire du cinéma est très très tardive. Le cinéma rentre dans les facs en France au début des années 70, donc, et sous la foulée, mai 68, donc c'est plus que 70 ans après sa naissance, d'un côté. L'autre précision que je voulais faire, même, c'est que sous la mondialisation proprement dite, c'est vrai que dans les années 20, il y a eu cette entrée du cinéma dans l'exposition des arts décoratifs et des autres expositions. En même temps, c'était une exposition très critiquée, par exemple, par le groupe des cinéphiles. Et il faut dire que la Cinémathèque française, par exemple, dans les années 30, naît pour un sentiment que Éric Langlois et Georges Franju ont de quelque chose qui est en train de mourir et de se perdre, c'est-à-dire le cinéma muet. Donc, c'est face à un sentiment de perte d'un objet qui est en train de disparaître, le cinéma muet, face à la nouvelle forme qui naît, le cinéma parlant, qui est en train de vraiment détruire, mais vraiment physiquement, parce que les pellicules du cinéma muet sont détruites pour en faire des nouvelles pellicules, des nouveaux films, face à ce sentiment de perte, qui alors se mobilise en sentiment de né en sentiment de patrimonialisation, en sentiment de la valeur de qu'est-ce qu'on avait. Donc, il faut aussi placer ce sentiment, cette mondialisation dans ce sens-là et dans ce contexte-là, plus précisément.
Oui, et j'ajoute que quand je note à quel point le jeu de rôle n'est pas reconnu par les institutions, je ne suis pas en train de le regretter. Ça me va très bien hein, qu'on n'apprenne pas le jeu de rôle comme on nous inculque des grands classiques littéraires français au collège. Moi, ça me va très très bien qu'on les décortique pas à l'école. Ça me va, je suis contente. Mais par contre, je note l'impact que ça a sur le développement économique. Et quand on parle de culture, si on se coupe, enfin là on est un milieu qui est coupé des subventions en fait, on a des auteurs qui sont très peu professionnels dans le sens qui vivent très peu de leur métier, des auteurs et des éditeurs et des, enfin toutes les personnes qui partent, des illustrateurs qui participent à la production des jeux. Peuvent en faire leur métier ou vivre à plein temps de cette activité parce que justement il n'y a pas de résidence d'artiste par exemple, il n'y a pas d'intervention en milieu scolaire qui sont rémunérées, il n'y a pas ce genre de choses où l'institution permet de financer en fait. Permet de soutenir un statut qui n'est pas rémunéré par le droit d'auteur ou qui n'est pas rémunéré par les ventes. C'était juste ça, voilà. Et peut-être que ça peut nous amener à évoquer la figure de l'auteur.
Oui, c'est-à-dire que, effectivement, le dernier aspect que je voulais évoquer de la question large de l'égyptien et maturité du cinéma, c'était que tout au long de l'histoire, même qu'on a vu au cours de ces 3 heures, 2 heures et demie, on est passé par plusieurs instances. En fait, la question de l'autoréalité du fait filmique passe au fur et à mesure des années, au cours de l'histoire du cinéma, par des instances différentes et n'est pas forcément fixée sur la figure du réalisateur comme l'est aujourd'hui. Et ça, c'est un point, selon moi, intéressant, qui parle du processus de légitimation. Parce que si au début, surtout au début, vraiment les films n'avaient pas de nom, n'avaient pas d'auteur du tout, c'était des films pâtés, des films gommeux, etc., etc. Après, par la période des films théâtrales, on pourrait dire des films d'art de la conception des années 1808, 9, 10, jusqu'à la Grande Guerre, c'était plutôt le scénariste qui avait adossé la responsabilité de l'autoréalité, donc le scénariste, celui qui écrivait le scénario, l'écrivain. Après, il y a des périodes différentes, et c'est vraiment les mouvements, par exemple, pendant les avant-gardes, surtout les Allemands, c'était le directeur de la photographie qui avait un grand rôle autoriel, auquel évidemment a été reconnu la responsabilité autorielle du film, alors que pendant les années d'or d'Hollywood, des années 40, c'est surtout le producteur qui impose certaines règles très strictes à tout le reste de l'équipe, et au metteur en scène en particulier, et on appelle ça le strong producer, c'est-à-dire le producteur qui impose des règles même au scénario. Un cas célèbre est par exemple le film Autant emporte le vent, qui est réalisé par Victor Fleming, mais le producteur David O. Selznick est reconnu comme son vrai auteur en fait. Donc c'est assez impressionnant comme au fur et à mesure de l'histoire du cinéma, cette responsabilité du film, de l'objet artistique qui après sort de la machine, de l'industrie, passe par des figures différentes, et entre autres le réalisateur, mais c'est vraiment presque une figure secondaire, et ça sert seulement, ça peut être une histoire un peu déjà plus connue, ça sert seulement la génération des cahiers du cinéma, donc de la nouvelle vague, des gens qui se retrouvent autour du critique André Bazin, et donc qui écrit sur les cahiers comme Truffaut, Godard, Romère, etc., etc., qui après vont faire aussi des films. Tout d'abord, ce sont des personnes qui réfléchissent sur le cinéma. C'est eux qui établissent, avec une expression célèbre, la politique des auteurs, définissent définitivement que le vrai auteur d'un film est le réalisateur. Et donc, ils vont aussi étudier rétrospectivement toute l'histoire du cinéma et à redonner la place d'auteur à tous les cinéastes, tous les réalisateurs qui jusqu'à ce moment-là étaient restés dans l'ombre d'autres figures, notamment la figure plus emblématique que cette génération redécouvre est celle d'Hitchcock, qui remet à l'honneur comme un vrai auteur et célèbre comme le vrai auteur, le vrai artiste. Et c'est à ce moment-là, donc on est vraiment dans les années 50-60, que naît l'idée sur laquelle aujourd'hui on est totalement centré, aujourd'hui on suit totalement cette idée, que le film est l'œuvre d'un réalisateur. C'est une œuvre collective, bien évidemment, mais surtout c'est l'expression d'un homme ou d'une femme qui est le réalisateur. Alors que jusqu'à ce moment-là, cette instance d'auteur était partagée parmi d'autres figures. Alors que pour le monde du rôle, moi je me demande, c'est qui vraiment qui a la responsabilité? Les personnes qui jouent, la personne qui mène le jeu, la personne qui a inventé le jeu, donc qui a donné les règles à la base. Voilà, c'est effectivement, c'est toute une question que je pense que peut se poser dans votre univers.
Ah, on se la pose et c'est tout autant le bazar, hein, pour le coup.
Bah, j'imagine.
Eugénie, tu veux répondre ou j'y vais?
Vas-y, je t'en prie.
Ouais, bah je vais reprendre un peu tes propres notes en fait. Mais on a effectivement beaucoup de façons différentes de tirer l'auteur du jeu de rôle. Et alors, premièrement, bon, il faut voir ce qu'on appelle auteur ici. Est-ce que déjà on parle d'un auteur vraiment au sens artistique, de quelqu'un qui donnerait une vision? Alors j'aime pas trop cette idée, mais c'est vrai que elle est assez populaire. En tout cas, un auteur qui aurait une vision artistique qui traverserait l'œuvre, ou simplement d'un artisan qui créerait un travail qui ne serait pas vu comme artistique, parce que le jeu de rôle, on l'a déjà dit, essaye de ne pas se penser comme un média artistique dans une large mesure, pour des raisons qu'on va pas forcément détailler ici, qui sont un peu compliquées. Mais si on regarde les débuts, autant il est très clair de savoir qui a écrit le livre en lui-même, autant comme il n'est pas pensé comme une œuvre d'art, on peut aller chercher l'auteur autre part. Et quand on prend des exemples comme Cthulhu, pour commencer, Cthulhu, c'est assez clair que l'auteur auquel on a envie de faire référence, c'est Lovecraft, quand même il n'a pas du tout travaillé sur le script, en fait. Il y a cette idée assez forte qu'on va reprendre l'univers de quelqu'un d'autre, et donc il y a un des auteurs qui sert ici, c'est celui de l'univers. Et on peut aller chercher l'auteur autre part, l'autorat du jeu en lui-même, on en reparlera peut-être plus tard, mais parce que c'est pas clair de quoi est-ce qu'on est l'auteur quand on est l'auteur d'un jeu de rôle, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on est l'auteur d'un texte qui a été écrit? Est-ce qu'on est l'auteur d'un ensemble de règles? Est-ce qu'on est l'auteur d'une certaine idée, d'un certain univers? Il y a pas mal de... Même si on a fixé la personne et le jeu, il n'est pas exactement clair de savoir de quoi cette personne est l'auteur, en fait. Tu notais aussi, Eugénie, on peut chercher l'auteur des scénarios. Beaucoup de jeux de rôle traditionnels sont aussi passés par la publication de scénarios officiels à côté. Et autant le jeu est une base d'instructions, de règles pour jouer, mais qu'il faut encore incarner, qu'il faut ensuite transformer en une histoire à raconter, autant les scénarios du commerce, eux, ils ont des auteurs plus ou moins reconnus qui ont leur propre vision de comment on joue au jeu, qui proposent leurs propres histoires et qui, dans la mesure où ils sont les auteurs d'une histoire en soi, sont comparables peut-être à des auteurs littérateurs dans d'autres formes d'art, quoi. Et j'ai envie de dire que tout ça converge jusqu'à un moment ou un autre à l'idée assez forte de l'auteur de jeux de rôle comme l'auteur des règles, des mécaniques et du système plus spécifiquement. Enfin, pas le système, non, mais... Ouais, l'auteur comme celui qui a écrit le jeu et qui lui a donné un certain propos autour des discours en France de la cellule. Je pense en particulier vraiment à la vision de jeu de rôle d'auteur par Romaric Briand, par Frédéric Saint-Hès et quelques autres comme ça. Est-ce que tu veux intervenir avant qu'on attaque vraiment la question de tout ce qui est autour de la cellule ?
Je voulais juste ajouter les deux strates suivantes d'auteurs qu'il peut y avoir en jeu de rôle, c'est le MJ qui du coup peut s'apparenter à un performeur qui s'appuie sur du matériel, mais dans ce cas-là c'est comme tu disais, c'est pas des œuvres d'art, c'est du matériel, des accessoires à sa disposition, le livre de jeu étant un accessoire parmi d'autres, pour produire une performance artistique au sens d'un moment qui est unique dans lequel il va faire une représentation assez proche de l'image qu'on peut avoir d'une représentation théâtrale. Et puis il y a les joueurs performeurs qui apparaissent aussi comme une catégorie d'auteurs, je pense assez tard. Et je soupçonne que si c'est de plus en plus accepté, qu'on peut être joueur, être créateur et auteur de sa propre partie, c'est grâce aux Actual Play qui du coup, je suis désolée, hein, il est tard, j'ai du mal à articuler, qui sont des enregistrements de parties, et du coup, s'il y a un public pour regarder des gens jouer, ça doit être que ces gens sont bien l'auteur de quelque chose, quoi, puisqu'ils ont un public. Du coup, le fait de rajouter un public qui avant n'existait pas à la table de jeux de rôle, ça crée quelque part des auteurs qui sont les joueurs, quoi, et qui créent ce moment-là ensemble.
Ah, c'est vrai que j'allais les citer un petit peu après, mais en fait, rétrospectivement, quand on regarde par exemple le jeu de rôle des années 90, à moins qu'on suive très pour très un jeu de rôle, comment dire, un scénario du commerce, l'histoire racontée, elle l'est souvent par le ou la MJ, et donc par une personne qui se fait autrice de l'histoire. Mais c'est vrai que une question aussi compliquée qui est... On parle d'auteur, mais de quelle œuvre, en fait? C'est-à-dire qu'avec le cinéma, on a l'air d'être à peu près d'accord sur le fait que l'œuvre du cinéma, c'est le film. Mais même en jeu de rôle, c'est pas clair. Et typiquement, il y a au moins trois objets différents dont on a parlé là maintenant, qui sont le jeu au sens de la base, c'est-à-dire le livre en lui-même, le scénario, donc l'histoire qu'on va raconter, et la partie en tant qu'expérience en elle-même. Mais on peut même aller un peu plus loin en disant les mécaniques. En se disant ce qui est important dans le jeu, dans la base en elle-même, c'est pas exactement le texte en lui-même, mais c'est la façon d'y jouer et les règles telles qu'on les quand elles fonctionnent ensemble et qu'elles produisent un certain effet. Et je pense que cette vision-là est vraiment celle que Romaric, la cellule, a voulu défendre, en fait. Romaric et d'autres, je vais le prendre comme fer de lance de toute cette mouvance-là, qui a voulu affirmer, et je pense que le parallèle avec les cahiers du cinéma est assez... je pense qu'il est assez aigu, parce que y a vraiment cette idée qu'ils vont mettre en avant la place de l'auteur du livre comme quelqu'un qui transmet un propos, une idée extrêmement forte. D'ailleurs, Romaric a écrit Sens, qui est probablement le jeu dans lequel l'auteur a la place la plus importante, en fait. Il y a une espèce d'auteur-personnage qui s'adresse au lecteur dans Sens de façon très étrange et qui affirme très clairement ce jeu-là comme un jeu d'auteur. Je crois que la notion de jeu d'auteur a été très importante pour la cellule. Alors, je réalise que on parlait de l'histoire du jeu de rôle à un niveau international, et là, j'ai centré sur la LCU, la partie francophone, donc je vais un peu faire comme Eugénie, en fait, je vais me limiter à la partie francophone que je connais mieux. Je ne sais pas trop comment ça s'est joué outre-Atlantique. Et je ne sais pas exactement si la forge s'est faite également la défense d'une vision de l'écrivain, enfin de la personne qui écrit le jeu comme l'auteur ou l'autrice en soi. Je suis pas sûr. Mais effectivement, en fait, pour moi en tout cas, c'est la cellule qui a beaucoup formalisé ça en francophonie. Et dans un certain sens, je leur rends d'autant plus crédit que moi j'ai besoin d'une certaine théorie de l'auteur comme ça pour passer derrière et pour la nier, en fait. Et le mouvement qui est celui dans lequel on est un peu toi et moi Eugénie, c'est celui du tous auteurs, tous autrices, quoi, où on va nous, notre mouvance personnelle, ce que j'appelle performativisme, c'est celle dans laquelle on affirme que la partie est l'œuvre et non pas la base, non pas le jeu, non pas les règles non plus. Et que la partie, donc, où ça, donc l'objet, enfin, l'œuvre en elle-même change complètement de type d'objet, en fait. Ça cesse d'être un objet, un objet formel transmissible qui serait soit un jeu, donc matériel, enfin soit un texte, donc quelque chose de plutôt moins matériel, soit des règles, donc des idées, mais dans les deux cas des choses qui se transmettent facilement, et ça devient des œuvres éphémères, performatives, non reproductibles, et ainsi de suite. Donc on change de registre, en fait, comme type d'œuvre, et donc fatidiquement comme type d'auteur et d'autrice, quoi. Et donc voilà, non seulement on a du mal à savoir qui est l'auteur, mais en plus on ne sait même pas vraiment qui est l'œuvre non plus. Et à la fin, tout ça est d'autant plus intéressant, et c'est vraiment des questions sur lesquelles moi j'invite tout rôliste à se placer, parce que ce sont des questions qui sont également extrêmement réflexives. Selon la conception que j'ai de qui est l'auteur ou l'autrice dans le jeu, je change les parties que je produis, je change les jeux que j'écris. Je vais citer une partie qu'on a faite avec Eugénie, et en jouant des trucs comme ça, on se place vraiment dans l'avant-garde. La partie s'appelait Dungeons and Dragonflies, et c'était un mix entre des trucs inspirés Donjons et Dragons et un jeu de rôle de poésie très étrange qui s'appelle Dragonfly Motel. On avait fait un mix sans dire comment on mélangeait les deux, et on a, pendant le jeu, inventé les règles en s'inspirant de ces deux bases-là. On les a mixées, et en fait, découvrir comment est-ce qu'on jouait, découvrir comment on allait faire pour articuler tout ça, était le jeu en soi. Et on n'y rejouera pas, ça ne va pas être formalisé, publié, ainsi de suite. Et en faisant ça, on se place non seulement en auteur de la partie au sens de l'expérience jouée en elle-même, mais également auteur et autrice du dispositif en lui-même. Donc en fait, on n'a pas encore fini d'établir exactement quelle est l'œuvre, qu'est-ce qui est délimitable par la partie du jeu de rôle en elle-même, qu'est-ce qui est délimitable comme autorat. Et même sur l'objet, si je reviens encore sur la question de la base, la base, une fois de plus, hein, c'est le livre de jeu, c'est le jeu de rôle au sens matériel de l'objet livre qui te dit comment tu y joues. En fait, est-ce que la base est un jeu de rôle? Même ça est une question bizarre et différente. La notion de jeu de rôle est très 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 variable parce que ça va aller de jeux de rôle traditionnels qui se contentent de simuler un univers extrêmement vaste avec énormément d'encyclopédies où on peut jouer plein de choses, mais dans lesquels c'est suffisamment large pour qu'il n'y ait pas une proposition précise qui se distingue. Et on va plutôt considérer, par exemple, le MJ, la MJ, ou bien l'auteur, l'autrice des scénarios, comme les gens qui créent vraiment le jeu, parce que c'est la situation concrète dans laquelle sont les personnages qui créent l'ambiance, enfin, qui créent la spécificité de cette expérience-là de jeu. Ou alors, à l'inverse, si on regarde un jeu typiquement forgé avec une proposition beaucoup plus restrictive, spécifique, comme Polaris de PHLI, où on joue des chevaliers tragiques dans un royaume voué à la perte. Et ben à ce moment-là, on a beaucoup plus l'idée de se soumettre à un auteur ou une autrice qui a déjà créé le jeu et qui nous invite dans son expérience que l'on doit traverser, quoi. Donc, la question de savoir qui est l'auteur ou l'autrice dans le jeu vidéo, enfin, dans le jeu de rôle, pardon, elle est d'autant plus importante qu'elle est immédiatement réflexive sur les pratiques rôlistes. Je peux aller voir un film au cinéma et n'avoir aucune théorie sur l'auteur, et c'est pas grave. Ça va changer mon regard, mais ça va pas changer l'œuvre. En jeu de rôle, l'idée que je suis auteur, autrice d'une partie change radicalement mon rapport à l'œuvre, en fait.
Bien sûr, oui.
Est-ce qu'on prend le temps du coup de quelques dernières remarques pour un vaste bilan sur ces histoires? Enfin, je pense qu'il y a quelques points encore en plus dont on voulait parler au début sur cette idée de maturité du média que l'on peut maintenant évoquer avec tout ce qu'on a raconté derrière nous. Puis donc encore quelques remarques quoi, puis on va bientôt avoir fini, je pense.
D'accord.
Génie, est-ce que tu veux dire quelque chose ou est-ce que je continue?
Vas-y, je t'en prie.
Ça marche. Ouais, il y a une question qu'on n'a pas tout à fait abordée, mais j'aurais peut-être quelque chose à nous dire là-dessus, Nando. Moi, qui m'intéresse vraiment beaucoup, c'est la question des marges du milieu. Ce que j'entends par là, c'est qu'on peut toujours distinguer, il me semble, dans un média, en tout cas dans un média aussi centralisé et connu que, par exemple, le cinéma ou même le jeu de rôle, en fait. Centralisé, peut-être pas le bon mot, mais les gens qui connaissent le jeu de rôle connaissent pas mal de jeux de rôle. Encore que. Il y a des pratiques plus ou moins dominantes et il y a des marges. Donjons et Dragons, Pathfinder, mais également les univers maison chez soi, également Cthulhu, également plein de choses comme ça, sont globalement dans la norme dominante. Des jeux de rôle plus fantaisistes, moins connus, plus particuliers, mais avec toujours cette organisation de MJ, de scénario, etc., sont quand même relativement proches de la norme. Et puis il y a des normes alternatives à certains autres endroits qui sont plus ou moins affiliées à celle-là. Les PBTA, par exemple, c'est-à-dire tous les jeux descendus d'Apocalypse World, forment une communauté, enfin des communautés, je ne sais pas, mais en tout cas un ensemble de pratiques communes, etc. Mais alors, le sentiment que j'ai, c'est que si on voulait faire juste le parallèle avec le cinéma, on pourrait dire qu'il y a des choses qu'on appellerait mainstream qui sont assez floues, assez larges, au bord pas clair. Et puis on pourrait voir des tas de pratiques alternatives et marginales, comme par exemple vraiment les groupes cinéphiles qui vont aller regarder des films début 20e par intérêt historique. On peut regarder des groupes qui sont intéressés par les nanars. On peut regarder des groupes qui sont intéressés par certains films cultes comme le Rocky Horror Picture Show, des choses comme ça. En fait, il y a pas mal de groupuscules comme ça et qui me semble connu. En fait, moi qui n'y connais pas grand-chose au cinéma, justement, je sais qu'il y a, pareil, j'allais dire les groupes d'art et d'essai aussi, c'est un type de cinéma très particulier dont tout le monde ne raffole pas, mais je sais que ça existe. Je sais qu'il existe des groupes de gens qui aiment les nanars, je sais qu'il existe des groupes de gens intéressés par le cinéma culte, et ainsi de suite. Et là où je voudrais en arriver, c'est qu'il me semble qu'un bon critère de maturité ou de bonne santé d'un média, c'est sa reconnaissance des marges. C'est-à-dire que depuis l'intérieur de la pratique, depuis une pratique dominante, on ait connaissance de ces marges et qu'on puisse y accéder si on le souhaite. Dans le jeu de rôle, j'ai beaucoup le sentiment que, il y a une pratique dominante extrêmement visible qui, quasiment écrase la visibilité des autres marges, en fait. Nous, dans les courants alternatifs, on est une des marges parmi d'autres. On essaie de se rendre présent en convention pour exister. Moi, c'est un acte que parfois je trouve un peu presque militant, c'est-à-dire que j'ai envie de faire connaître ces autres formes de jeu, ces autres façons de jouer. On le fait parfaitement en ayant conscience que c'est pas forcément quelque chose qui intéresse tout le monde, et c'est pas le but. Le but n'est pas de convertir tout le monde au jeu d'horreur alternatif, mais juste de dire que ça existe. Et je crois qu'il y a une grande majorité rôliste qui ne connaît pas l'existence de ces jeux alternatifs, qui ne sait pas vraiment que ça existe, et que les marges ont énormément de mal à exister, à avoir une reconnaissance en tant que telle dans les médias rôlistes. Et c'est là qu'il y a une question de maturité qui me semble frappante. Et alors, j'ai malheureusement pas, je peux pas avoir des stats pour appuyer ça, mais je reprends un argument que j'ai dit tout à l'heure qui est percutant pour moi. C'est la façon dont on présente un jeu de rôle amateur qu'on est en train de fabriquer sur un forum, dans des groupes de discussion, dans des groupes liés au game design et tout. Je vois ça sans cesse. C'est, on présente l'univers et on dit, en général, les règles ne sont pas très compliquées. Vous allez voir, les règles de combat de vaisseau fonctionnent comme ça, etc. Et ce sont des marqueurs typiques d'une certaine façon, d'une certaine pratique du jeu de rôle, qui est tout à fait légitime, que je ne remets absolument pas en cause. Elle ne m'intéresse pas, mais c'est pas du tout un jugement de valeur. Mais il y a toujours un implicite extrêmement fort qui est qu'il n'est pas nécessaire de dire qu'il y a un MJ, il n'est pas nécessaire de dire qu'on va jouer des gens qui essaient de faire des choses et qu'il y aura des jets de dés pour sanctionner leur réussite, il n'est pas nécessaire de dire tout un tas de choses comme ça. Et il manque l'idée que les gameplay rôlistes peuvent être extrêmement larges. Et donc je vais connecter ça à un autre constat qui est aussi une comparaison cette fois-ci avec le jeu vidéo qui m'a frappé quand j'ai réussi à la faire, c'était de dire la chose suivante. Est-ce que vous pouvez, là, comme ça, me décrire ce que c'est que la pratique dominante en jeu de rôle? À quoi ça ressemble un jeu de rôle typique, quoi? Et à peu près tout le monde répondrait, bah, y a un MJ, un scénario, des joueurs, des joueuses, etc. Et si on pose la même question dans le jeu vidéo, la question tombe immédiatement, est complètement non pertinente, en fait. Quel est le gameplay d'un jeu vidéo? Comment ça se joue un jeu vidéo? Il n'y a pas de réponse à ça. Mmh. On va pas dire un jeu vidéo, c'est un jeu dans lequel tu manies un avatar et tu dois tirer sur tes ennemis, parce que cette description n'a rien à voir avec ce que c'est qu'un jeu de stratégie, n'a rien à voir avec les RPG au tour par tour, n'a rien à voir avec à peu près tous les autres sortes de jeux vidéo qui ne sont pas des FPS ou des TPS. En fait, il n'y a pas de gameplay central dans le jeu vidéo, il n'y a pas un gameplay pour lequel tout le monde dit « c'est ça le jeu du haut standard ». Il y a des choses plus dominantes que d'autres, hein. Il y a beaucoup plus de jeux de tir, de FPS, que de jeux de stratégie temps réel, de RTS, ça se fait de moins en moins. Mais il y a quand même une idée d'une certaine diversité. Et en plus, le jeu vidéo est un milieu qui reconnaît ses marges, en particulier dans les années 2010 sont vraiment celles de l'explosion du jeu de rôle indépendant. Le jeu de rôle indépendant, maintenant, tout le monde en parle, tout le monde sait que ça existe. Ils sont très visibles, très accessibles sur Steam. C'est d'ailleurs, alors c'est un milieu assez terrible pour les gens qui veulent se lancer parce qu'il y a une concurrence gigantesque. Mais voilà, je crois qu'en 2012, notamment, il y a eu Indie Game The Movie. Alors c'est marrant comme un média en légitime un autre, puisque c'est un film sur le milieu des jeux vidéo indépendants, centré sur Phil Fish et d'autres comme ça, et qui a vraiment légitimisé à fond le jeu de rôle indépendant, et plein de gens y jouent. Et maintenant, on voit un peu des ponts entre jeux vidéo indépendants et jeux vidéo plus mainstream, avec des jeux comme, je pense par exemple à Child of Light, qui est un jeu qui a tous les marqueurs du jeu indé, mais qui est en fait produit par Ubisoft. Et j'aimerais, mon souhait, mon point sur la table là pour la fin, c'est j'aimerais atteindre ça en jeu de rôle un jour. J'aimerais atteindre un stade qui est qu'il y ait peut-être une pratique majoritaire du jeu de rôle, pourquoi pas. Je ne veux pas la détruire, je ne suis pas un iconoclaste, mais qu'il y ait une reconnaissance plus forte des marges, en fait, que les pratiques traditionnelles acceptent de se situer par rapport à d'autres possibilités et non pas comme l'hégémonie unique. Mmh. Et ça, c'est un des points principaux qui me poussait à parler de maturité du média, c'est-à-dire, je trouve qu'actuellement, le jeu de rôle ne reconnaît pas ses propres marges. Mmh. Voilà.
C'est hyper intéressant. Je te remercie pour ces remarques. J'ai fait deux réflexions rapides. La première, c'est que c'est vrai que donc pour moi aussi, à mon sens, le cinéma est un art démocratique, plus démocratique avec ses marges, on pourrait dire, ses espérances marginales. C'est-à-dire que tout le monde trouve sa place dans l'histoire du cinéma et dans le goût du cinéma. Comme tu as dit, il y a les groupuscules qui aiment les nanars, les groupuscules qui aiment le cinéma polonais des années 23, 24. Donc, tout le monde a son... Sur les contenus, c'est vrai que les marges de l'histoire... Le cinéma est conscient que sa définition va avec tout l'ensemble de son histoire. C'est l'histoire du cinéma, c'est-à-dire tout ce qui était produit rentre dans sa définition. Donc, il n'existe pas de marge, de vraie marge. C'est un peu, cette conscience, c'est vrai que est bien évidente pour le cinéma. D'autre part, je voudrais par contre souligner comment la difficulté, c'est l'exclusion des marges ici, existe aussi pour le cinéma, mais quand, et je reviens encore une fois à la question du dispositif, c'est-à-dire ok, pour le contenu, pour les productions, c'est vrai que l'histoire du cinéma est une histoire assez démocratique, mais si on regarde au cinéma à la question du dispositif, alors on se rend compte que c'est encore, c'est un peu plus compliqué. Parce que par exemple, aujourd'hui, je fais un autre exemple, pas les autres qu'on n'a pas encore fait, mais la réalité virtuelle. Donc les films qui passent avec le casque en réalité virtuelle, qui existent, donc ils commencent à être vraiment une production, même d'une sorte en type, même fait par certains artistes, dans le sens auteur qui emploie cette forme d'expression, bah, cette forme qui sort, ressort du dispositif cinématographique qu'on a dit, qu'on a défini, bah, il a du mal à se faire accepter par le monde du cinéma. Donc le marge, moi, dans l'histoire du cinéma, je les assume, je les considère pas autant au niveau du contenu, de la production, des films, proprement dit, de l'histoire des films, mais dans l'histoire des dispositifs différents de celui dominant qui se met en place. Et par rapport à ces dispositifs minoritaires, là, la question, ça revient un peu de façon similaire aussi pour le monde du jeu du rôle. C'est-à-dire que la situation est beaucoup moins démocratique et beaucoup moins accueillante parce que ces pratiques alternatives sont très mal accueillies ou accueillies de façon dialectique ou difficulteuse dans l'histoire du cinéma. Je ne sais pas si tu vois mon point de vue. Voilà.
Ouais, c'est très intéressant. Ouais, merci.
Ouais, je voulais adoucir un petit peu quand même le constat de Kef. Parce que de fait, je pense que ça bouge et que les choses évoluent et petit à petit les marges sont digérées, quoi. Le jeu sans MJ, typiquement, commence à peu près à être accepté. Alors tout le monde n'est pas encore au courant que ça existe, mais globalement ça va. Globalement, les rôlistes commencent à en avoir entendu parler. Ils sont pas forcément convaincus, ils ont pas forcément envie d'essayer, mais commencent à imaginer que c'est possible. Et on a passé la barrière du c'est une remise en question de mon loisir et non, ça n'est pas du jeu de rôle. Mmh. On a passé cette barrière là et c'est en train de passer. Typiquement les jeux de type de la famille Apocalypse World, c'est pareil. Aujourd'hui, c'est en train de globalement, on commence à en avoir entendu parler, même si on n'y a pas forcément joué, on ne sait pas exactement c'est quoi ses spécificités, mais pareil, il y a eu cette diffusion, elle est en train de se faire doucement. Et puis on peut citer aussi la scène Itch.io qui explose de créativité dans tous les sens, avec notamment les jeux diffusés et promus par Mathieu B et sa communauté C'est pas du JDR. Alors le titre de la communauté est assez emblématique sur le fait que voilà, je te concède ça complètement, mais néanmoins il y a une diffusion qui se fait, quoi. Après, je pense que on a un vrai problème d'un média dont les pratiquants sont atomisés en petits cercles et que du coup la diffusion elle est longue et elle est lente, quoi. Et encore une fois, on est jeune et c'est peut-être aussi une question de temps, quoi, avant que les marges, déjà les personnes en aient entendu parler, ensuite qu'elles les acceptent, ensuite qu'elles s'y intéressent, ensuite, enfin voilà, le cinéma, mine de rien, les premières dates qu'on a citées dans notre au tout début de cette conversation dans le premier podcast, c'était 1895, quoi. Le jeu de rôle, c'est 1974, donc on a le temps, quoi.
Ouais, t'as complètement raison d'amener cette nuance. C'est vrai que mon espèce de cri du cœur, je sais pas exactement à qui je l'adresse, en fait, parce que dans les conventions où on va, on est quand même reçu, on a une parole, on a un groupe qui est quand même assez actif autour des courants, et on n'est pas à la seule marge du jeu de rôle, une fois de plus. Il y a aussi cette communauté autour de C'est pas du jeu de rôle, il y a pas mal d'autres communautés marginales autour de tel ou tel type de jeu. Et Oui, bien sûr, effectivement. Tu as... là, en fait, là maintenant, j'essaie de faire un peu la liste de quels contributeurs il y a démocratisation des formes alternatives du jeu de rôle, et bien sûr qu'il y en a, effectivement. C'était juste un espèce de... voilà, juste un cri du cœur qui est sur cette façon de présenter le jeu de rôle qui, à mon avis, montre qu'on n'a pas encore fini de regarder notre propre langage, en fait, et de voir quelles sont ses alternatives.
Mais moi, ce que j'aime beaucoup dans cette conversation, c'est l'espèce d'énorme recul que ça nous fait prendre de se comparer au cinéma. Je vois tous les points communs qu'on a soulevés. Et déjà, je trouve que ça nous dit que notre média, il n'est pas unique, il n'est pas spécifique, il est juste en construction, en fait. Il est en train d'avoir son histoire, il est en train de se cristalliser et de se redéfinir et réinventer aussi au fur et à mesure de ses ruptures. Mais finalement, quand je vois l'anecdote du bazar de la charité et des conséquences que ça a eu et sur le développement, etc., et que je fais le parallèle avec nous, le traumatisme Mireille Dumas qui a été pour la communauté rôliste, je me dis, mais finalement, on n'a rien de spécifique, en fait. Le média n'est pas ni maudit ni choisi, quoi. Il est juste comme les autres, il est juste un peu plus jeune et on aura le temps de notre développement, quoi.
Ouais, et je suis en train de me demander aussi s'il n'y a pas, alors c'est très méta comme analyse, mais est-ce qu'il n'y a pas aussi un processus d'accélération, de légitimation des différentes, pardon, je vais le redire autrement, que les processus de légitimation des différents médias est de plus en plus rapide avec le temps qui passe. C'est-à-dire que quand je pense que typiquement la position de la cellule de Romaric et tout, à mon avis, est directement inspirée des cahiers du cinéma et tout, plus ou moins inspirée de la politique des auteurs. Il me semble que c'est quelque chose que Romaric a explicitement cité à la cellule, je ne suis pas tout à fait sûr. Et je pense que le fait de pouvoir regarder les processus de légitimation du cinéma à d'autres moments permet plus rapidement de dire, mais en fait, voilà comment ça va se passer, voilà où est-ce que ça va se passer ensuite. Et je pense que ça se fait plus vite. Typiquement, le média qui a gagné sa légitimité à une vitesse incroyable en ce moment, c'est le jeu vidéo. Enfin, je veux dire, il y a encore 20 ans, je pense qu'il y avait... il y a 20 ans, il y avait déjà les Game Studies, il y avait déjà Jules et tout ça. Mais il y a 30 ou 40 ans, le jeu vidéo était quand même vraiment vu juste comme les écrans, quoi, les méchants écrans. Et actuellement, il y a quand même pas mal de discussions, de réflexions universitaires sur le jeu. On admet totalement que ça peut être une œuvre d'art. Enfin, on admet totalement. Ça dépend de l'âge de la personne qui parle, mais c'est essentiellement... La bataille est déjà gagnée, quoi. C'est assez évident pour beaucoup de gens que le jeu vidéo est un média très riche, très large, avec toute une dimension artistique et créative, et ainsi de suite. Et en jeu de rôle, je partage aussi ton constat, Eugénie, sur le fait qu'il y a juste des constats structurels liés à la façon dont fonctionne le jeu de rôle qui ralentissent la diffusion des idées. L'idée qu'on peut simplement jouer dans un groupe fermé avec assez peu de contact avec une masse pour discuter. Le fait que aussi pour jouer à un jeu, il faut déjà une sacrée logistique, en fait. La plupart des jeux demandent pas une seule partie, mais plusieurs. Donc on va y passer longtemps, tandis qu'un film, on se procure le film, ça prend 2 heures pour le voir et puis il est vu, quoi. Et qui font qu'en fait on peut rester... Et des groupes qui peuvent rester très longtemps à jouer qu'à un seul unique jeu. En fait, on peut passer des années à ne faire que du Donjons et Dragons et avoir des tas de sessions très différentes, d'explorer des tas d'axes très particuliers, très différents du jeu, de jouer toute la progression, ainsi de suite. Et je ne connais pas de film qui puisse être l'unique et seule pratique filmique d'une personne pendant des années et des années, quoi. Et en plus de tout ça, en plus de tous ces processus qui se ressemblent et qui ont des similarités, même si on a parlé des différences aussi, il me semble qu'on est actuellement aussi face à un moment de transformation pour tous les médias, face à Internet et aux nouvelles technologies depuis 20 ans à peu près. Et le jeu de rôle est aussi en train de se réinventer à travers ça. Je parlais tout à l'heure du coronavirus. Je suis sûr que le virus aura vraiment un impact non négligeable sur le jeu de rôle parce qu'il aura précipité énormément le passage à... Enfin, énormément, je ne sais pas. Il faudrait mesurer l'impact. Mais il aura vastement précipité le passage au jeu de rôle dématérialisé parce qu'on est enfermé chez soi et que si on passe par le vocal et par Internet, on peut jouer ensemble. Et il y a plein d'outils qui sont en train de se créer, d'apparaître. Roll20, c'est déjà has-been. Maintenant, tout le monde est sur Miro et ainsi de suite. Et je pense qu'on n'a pas fini de voir la recréation du média rôliste sur Internet et sur les nouvelles technologies. Et le cinéma, on a évoqué Netflix et la crise autour de ça actuellement. Je pense que tous les médias, en plus de leur processus habituel, sont en train de se redécouvrir en ce moment, quoi.
Oui, c'est vrai.
Il y a un musée à Rennes qui fait découvrir ses œuvres par des vidéos, par exemple. Tu vois, on passe. C'est marrant, tout à l'heure, on parlait du cinéma comme vecteur pouvant faire passer la culture, le théâtre et tout. Mmh. Ben là, maintenant, c'est YouTube qui fait passer. YouTube sert à la vulgarisation scientifique. YouTube sert à découvrir des musées pendant le confinement, plein de choses comme ça.
Oui.
Mais on n'est pas encore, on n'a pas encore le recul pour analyser tout ça. Du coup, je crois qu'il va falloir petit à petit clore ce podcast qui est déjà très très long.
C'est ça, on se revoit dans 30 ans pour faire un petit bilan.
Ah ouais.
Ça marche. Est-ce que vous avez une dernière chose à ajouter ou est-ce qu'on en a à peu près fini avec tout ça maintenant?
Moi, j'aimerais une question, mais si vous, avec une promesse de réponse rapide. Mais peut-être c'est une question vraiment basique et qu'on aurait dû poser au début, mais c'est à ce moment-là que j'ai l'air à l'esprit. Vous ne pensez pas que la difficulté aussi pour le monde rôliste de s'affirmer, de la maturité, de la légitimité, donc de la reconnaissance, c'est lié à ça et à son immatérialité? C'est-à-dire que le fait que le cinéma, c'est une expérience, mais c'est aussi lié à un objet qui est l'objet film. Et même, on pourrait dire, les jeux vidéo, finalement, c'est une expérience, mais c'est lié à quelque chose de matériel. Alors que dans le monde réaliste, la matérialité, oui, est dans le script, mais comme on a dit, c'est pas forcément là qu'il se passe vraiment tout la définition de l'objet. Donc cette immatérialité peut être aussi une des raisons un axe pour lequel regarder, voir comment vous jugez cette immatérialité face à la question de la légitimité et de la maturité.
Mais je pense que c'est même pire que ça. Merci. C'est-à-dire que c'est pas une simple immatérialité où on se dit qu'on pourrait filmer des gens qui jouent et on comprendrait quand même ce qui se passe. C'est que globalement, si on veut vraiment comprendre ce qui se passe dans une partie de jeu de rôle, il faut participer. C'est un peu comme regarder des gens qui dansent. Ça nous fait pas comprendre ce que c'est que danser. En termes de sensations, en termes de voilà. On a accès à une partie de l'expérience, mais pas à tout. Et le jeu de rôle, c'est quelque chose qui est fait pour être pratiqué. Enfin, moi, c'est comme ça que je le. Enfin, voilà, c'est ma vision du jeu de rôle, mais c'est une pratique. Et du coup, ça rend la transmission, l'étude encore plus difficile, quoi. C'est-à-dire qu'il faut en faire, il faut le pratiquer pour comprendre ne serait-ce que ce que c'est.
Moi, je n'étais pas forcément d'accord sur la matérialité, mais c'est effectivement un sujet compliqué dans lequel on ne va pas trop se lancer. Mais typiquement, beaucoup de jeux de rôle traditionnels ont vraiment basé tout un pan de leur vente sur la beauté des livres. En fait, des gros livres avec une couverture cartonnée, des belles illustrations, ainsi de suite. Et avec l'idée qu'on va vendre tout autant aux rôlistes qui vont jouer qu'aux collectionneurs, en fait. Et dès les débuts, en fait, les premières éditions de Donjons et Dragons, elles se vendent dans des boîtes. Ce n'est pas des livres, c'est des boîtes. Parce qu'on inclut notamment les dés particuliers. Et les dés avec des formes spéciales, c'est vraiment un fétiche du jeu de rôle avec l'écran. Tu vois, l'écran et les dés, c'est des éléments d'intrigue et qui souvent reviennent dans ce que recherchent les gens quand ils ont entendu parler de jeu de rôle. Et actuellement, en fait, le jeu de rôle est plutôt dans un processus de dématérialisation, quoi. De plus en plus, à chaque fois qu'il y a un nouveau jeu de rôle qui passe par Kickstarter ou quoi, il y a de plus en plus de demandes pour qu'il y ait aussi une version en PDF, qu'il y ait aussi des versions en e-book, et ainsi de suite. Donc, le jeu de rôle se dématérialise, mais il a eu toute une dimension très matérielle et il continue d'avoir. Dans une certaine mesure, par contre, dans un autre, c'est vrai que là où c'est bien plus compliqué, c'est que si tu acceptes une vision forgienne, cellule, avec des jeux dont la nature profonde, c'est d'avoir un système et des mécaniques spécifiques, alors le problème, c'est qu'on ne sait pas du tout c'est très difficile à transmettre. Et par exemple, c'est quelque chose qui n'est pas bien... un exemple de ça, c'est que c'est pas du tout protégeable par le copyright. On peut copyrighter un texte précis, une illustration précise, mais le concept, l'idée d'une mécanique, c'est actuellement pas possible. Voilà. Donc sur la légitimation et tout ça, je ne saurais pas trop faire un commentaire. Mmh. Mais le rapport du jeu de rôle à la matérialité est assez complexe, en fait. Et c'est vrai que comme on a cette fierté que le jeu, c'est surtout une conversation, c'est dans notre tête, c'est visualisé, c'est pas un spectacle, justement. Toi, tu parlais de spectacle au début dans la diffusion du cinéma. Le jeu de rôle n'est pas un spectacle, ouais, a du mal à l'être, quoi. Et il commence à l'être via les fameux Actual Play enregistrés, potentiellement un peu scénographiés et tout. Mais il ne l'est pas par nature, quoi. Donc plutôt que de parler de matérialité, ouais, j'aurais parlé de la partie spectacle.
Bon, c'est bon pour moi. Merci de cette réponse. Non, je vois plus clair. C'est vrai que je vois plus clair dans mon ignorance.
Et en même temps, tu vois, ce qu'on t'a dit, c'est démenti aussi par le succès des Actual Play qui refont du jeu de rôle un spectacle, en fait, c'est des parties qui sont filmées, mises à disposition sur YouTube, sur ce genre de plateforme, ou enregistrées et qui sont écoutables en audio comme des fictions radiophoniques. Et moi, j'en écoute beaucoup et j'adore ça, donc je suis pas du tout de bonne foi quand je dis il faut participer pour comprendre ce que c'est que de jouer, c'est n'importe quoi. Mais disons que pour expliquer à quelqu'un qui n'a jamais fait de jeu de rôle, lui montrer un extrait d'une partie, ça n'a aucun sens, en fait. Ça a très peu de sens. Et je voudrais en profiter, je voulais dire ça en conclusion, mais ça tombe bien, on arrive à la fin, pour vous inviter à aller voir cette vidéo, sur la chaîne YouTube de La Cellule, de Fabien Ilvine, qui présente son loisir préféré. Et c'est super parce que il vous présente le cinéma. Il présente le cinéma à un public qui n'aurait connu que le jeu de rôle, en essayant d'expliquer l'expérience du cinéma, mais du coup il n'a pas les termes pour en parler, etc. Et notamment il montre à la fin un extrait du générique de James Bond sur un tout petit écran tout pourri, et il dit bon voilà, oh, c'est extraordinaire, voilà, vous avez un bon aperçu, hein, de ce que c'est que le cinéma. Et en fait c'est souvent ça, la façon dont le jeu de rôle est montré, alors que ce soit dans une émission télé ou dont on essaye d'en parler à des gens qui connaissent pas dans notre entourage, c'est on explique en quelques lignes de dialogue, on essaye de raconter un bout de partie ou éventuellement on montre des personnes qui jouent. J'avais vu ça dans un documentaire sur les geeks. On montre des personnes qui jouent, mais il y a juste une séquence de 15 secondes avec quelqu'un qui dit « Je sors mon couteau, j'ai un couteau ou pas ?» Et ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que si t'as jamais joué, tu te dis mais qu'est-ce qu'ils font ? Et du coup, je trouve le parallèle et le renversement très très bien fait. Je vous invite à aller voir cette vidéo. Elle est rigolote, elle dure 4 minutes et elle est très bien faite.
Merci pour.
Ouais, pareil. Eh ben oui, merci à vous deux pour vos interventions. C'était très intéressant.
Merci à vous de l'invitation et de la conversation. C'est vraiment très intéressant pour moi aussi.
Merci beaucoup. Ouais.
Et puis bravo aux auditeurs, auditrices qui sont allés jusqu'au bout des 3h30 de podcast. Je pense qu'on aura fait à peu près.
Ah oui.
Si vous avez des retours sur l'histoire du jeu de rôle, sur des inexactitudes, sur les choses en plus que vous voudriez dire, n'hésitez pas à investir. Alors les commentaires de la vidéo, c'est une chose, mais en plus si vous voulez venir discuter sur les cours alternatifs, Ginny et moi, on est dans le coin. Moi je serai là pour en parler, faire le service après-vente si vous voulez. Et puis voilà, ce n'est pas une histoire finie, c'est juste une petite étape parmi d'autres.
Oui, the end.
Ouais, pour le moment,
c'est pas le cas.
Donc, allez, au revoir.
Au revoir, bonne nuit.
Bonne nuit.